La laïcité turque est entièrement calquée sur le modèle français et sur un modèle bien précis, celui de la Troisième République française. Et je crois qu'elle a donné des conséquences dans un sens parfois diamétralement opposé de l'expérience française. Aujourd'hui, juridiquement parlant, l'État turc est très laïque. Le processus de production de droit, si on peut dire ainsi, est complètement laïcisé. Il n'y a aucune référence islamique dans le système juridique turc. Et en politique, il y a de nombreux garde-fous pour empêcher qu'un parti politique dégénère en une sorte de mouvement religieux ou vice-versa. Dans une première vision, le système est parfaitement laïcisé et il marche relativement bien. Mais si on regarde les choses de frais, c'est que le caractère laïque du système juridique est une chose, son application dans la vie réelle est parfois une autre chose. Et c'est ça qui cause parfois des problèmes pour les minorités religieuses.
Est-ce à dire que le contrôle qui est exercé autant par l'armée, on l'a vu à plusieurs reprises au cours de l'histoire turque, mais aussi par un département qui est celui des affaires religieuses, la Diyanet, est-ce que finalement tout cela n'est pas aussi clair, à savoir qu'il y a contamination, je dirais, du religieux dans le politique et du politique dans le religieux?
Oui, il y a une sorte d'osmose, je dirais, parce que à l'origine, la direction des affaires religieuses était créée pour contrôler le phénomène religieux. Il ne faut pas confondre l'expérience turque avec l'expérience soviétique où l'Église orthodoxe était placée complètement sous la domination du pouvoir politique. Non, ce n'est pas ça. La liberté religieuse a toujours existé en Turquie, mais ceci dit, les pères fondateurs de la République avaient pensé qu'il valait mieux créer une sorte de direction des affaires religieuses, d'abord pour assurer une certaine éducation religieuse aux gens, et puis pour empêcher que le phénomène religieux sorte hors du contrôle pour attaquer le système laïque. Or, la direction des affaires religieuses, elle a bien accompli son rôle. Elle l'a tellement bien accompli que maintenant, il y a parfois un mouvement dans le sens inverse. C'est-à-dire, oui, le politique contrôle le religieux à travers la direction des affaires religieuses, mais le pouvoir des affaires religieuses est devenu tellement grand que parfois on se demande si la présence d'une telle puissance au sein d'un État laïque est justifiable. Ne serait-ce que sur le plan budgétaire, la Diyanet, la direction des affaires religieuses, jouit d'un budget qui est supérieur à plusieurs ministères réunis. Et la direction, ce n'est pas un ministère, même. Elle dépend directement du premier ministère, ce n'est qu'une entité étatique comme d'autres.
Alors, pouvoir puissant, donc, de cette institution de contrôle, mais d'autre part, et c'est l'autre, je dirais, l'autre contamination, on a vu ces dernières années, finalement, que, je dirais, l'électoralisme a récompensé ceux qui ont misé sur la religion, et on le voit notamment avec le nouveau premier ministre.
Toujours, oui. Mais ça, c'est pas propre au premier ministre. Le multipartisme en Turquie a commencé en 1946. Déjà, le parti au pouvoir en 1950 avait joué sur la carte religieuse. Le parti démocrate qui est resté au pouvoir pendant 10 années et qui a été renversé par un coup d'État, le premier de l'histoire de la Turquie, voilà, ils avaient commencé par miser sur la carte religieuse.
Est-ce que c'est dans ce contexte qu'on peut interpréter la victoire de l'AKP aux élections de 2002?
Oui et non, parce que l'AKP, c'est un parti qui a des références religieuses, même implicites, mais bon, ils se considèrent comme des partis de conservateurs de centre, ceux qui reviennent à dire qu'on est un peu musulman, mais pas trop, voilà, c'est pour simplifier. Mais d'autre part, l'arrivée au pouvoir de l'AKP, c'est aussi le renversement des vieux cadres islamistes purs et durs que l'AKP a clairement qualifié d'escrocs, des usurpateurs de religion, je parle de la bande de M. Erbakan et tous ces vieux complices qui sont exclus du politique maintenant pour des raisons d'âge surtout. La création de l'AKP, c'est aussi une réponse à la vieille tradition islamiste qui abusait de la religion. Donc il faut voir les deux faces de la réalité.
Dès lors, pour ce qui est des droits des minorités religieuses, et là je pense aux églises orthodoxes notamment, orthodoxes grecques, arméniennes, oui, mais aussi aux catholiques, dans un tel contexte, est-ce qu'on ne risque pas l'immobilisme et que finalement ces communautés religieuses non musulmanes continuent à être tenues, je dirais, un peu dans un statut de réalité un peu étrangère?
Oui, toujours. En ce qui concerne les minorités religieuses non musulmanes, le nouveau gouvernement avait donné beaucoup d'espoir, beaucoup d'esprit d'ouverture pendant leur première année. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont beaucoup reculé par rapport à leurs promesses. Mais il faut bien comprendre une chose. Si nous voulons continuer sur la voie d'adhésion sur l'Union européenne, la question des minorités non musulmanes figure toujours dans le rapport annuel de la Commission. Et tant que nous ne les aurons pas réglés, ils vont continuer à figurer. Soit il faut les régler, soit il faut renoncer à l'ambition européenne. Enfin, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de voie intermédiaire.
Alors, il y a liberté de culte, oui, c'est bon à préciser pour nos auditeurs. Oui, par contre, il y a des restrictions au niveau de la possession de biens.
Oui, la question des biens des fondations religieuses, qui sont des fondations non-musulmans, ont été toujours très problématiques, oui. Et il y a encore aujourd'hui des problèmes, notamment touchant la modification de la loi sur les fondations.
Est-ce qu'on peut espérer un mieux sur ces problèmes?
Oui et non. Je viens de voir le projet de loi qui est maintenant sous le président de la République, qui peut renvoyer la loi ou bien la ratifier, l'entériner. Alors, il y a un progrès par rapport à l'époque précédente. Ça, c'est tangible, très clair, mais le progrès est bien plus modeste que ce qu'on espérait. Le gouvernement veut garder l'initiative de représailles sur les biens des fondations grecques au cas où la Grèce ferait des exactions sur les biens des fondations turques en Thrace occidentale.
Pour ce qui est des catholiques, la situation, je dirais, est pire dans la mesure où les catholiques n'ont pas d'existence juridique.
Souvent, dans la plupart des églises, c'est le cas parce que ces églises-là ont été créées par une donation impériale de terrain sur lesquels l'Église catholique a construit des bâtiments avec la donation de fonds de la part de Levantins, etc. Mais la conséquence en est que vous avez une belle église qui n'a pas de statut juridique. Et là, le problème devient très compliqué parce que pour une église orthodoxe ou une synagogue ou une église arménienne, même si une fondation a de très graves problèmes, elle existe. Comme personnalité juridique, il y a bien une fondation. Pour bien des églises catholiques, c'est plus compliqué. Il n'y a pas d'existence juridique.
Alors là aussi, est-ce qu'on peut espérer un développement positif, je veux dire, pour une sorte de réciprocité?
Écoutez, si ce n'est pas nous qui réglons les problèmes, ce sera les juges de Strasbourg qui vont les régler parce que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est très très claire. Même si une institution religieuse n'a pas de statut juridique reconnu par la législation nationale, tant qu'elle peut démontrer son existence au fil des siècles, elle a droit à l'existence juridique. Et là, les choses sont très claires. Il y a eu l'affaire de l'Église catholique de la Canée en Crète, en Grèce, et l'Église a gagné le procès. Il suffit de produire n'importe quel acte de notaire ou bien des factures d'électricité, d'eau, pour prouver que la chose a bien existé dans le temps.
Alors à vous entendre, on a l'impression que c'est finalement ce projet d'adhésion à l'Union européenne qui va régler pas mal de questions. Est-ce que justement ça ne pose pas quelques problèmes à la Turquie d'être pressée en quelque sorte d'aller de l'avant dans les réformes?
Oui. Vous savez, les Turcs sont des Méditerranéens, hein, aussi bien les Italiens que les Français sont extrêmement bien placés pour les comprendre. Nous sommes un peuple assez impulsif, émotionnel, etc. Et quand l'Europe exerce une pression pour faire des réformes, c'est très mal reçu. Ce que l'Europe devrait faire, et ce que les Turcs aussi devraient faire, c'est de s'entendre sur un pied d'égalité et par voie des négociations. Et non pas par voie de menaces diplomatiques ou de représailles d'une part et d'autre, mais il faut parler des choses comme elles sont.
Est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans un moment où tout le monde a peur de tout le monde, vu que, voilà, on y arrive, je veux dire, on est dans le concret?
Oui, j'ai de plus en plus cette impression-là. Les Turcs, d'une part, ont compris que le processus d'approchement à l'Union européenne demande des sacrifices et des modifications bien plus importantes que ce que nous imaginions. Et de l'autre part, l'Europe commence à comprendre que la digestion de la Turquie n'est pas chose facile. Mais personnellement, je continue à garder l'espoir.